Martino. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
Alors, je vais parler d'éducation, de professeurs. C'est vraiment pas évident. Avec Luc Papineau, qui est enseignant de français au secondaire, qui est quelqu'un qui a l'éducation à cœur, qui réfléchit beaucoup, souvent, sur les problématiques de l'éducation, qui a publié des livres, qui publie des textes sur les réseaux sociaux. Et là, bien sûr, il y a des menaces de grève. Il y a les travailleurs de l'éducation qui disent « Quand est-ce qu'on va être vacciné? Maudit bordel! » Il n'y a pas de ventilateur dans les écoles. Bref, ça grince. M. Papineau est avec nous. Bonjour, Luc Papineau.
Bonjour, M. Martineau.
Bonjour. Alors, bon, premièrement, retour à l'alternance secondaire 3, 4 et 5. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben, dans un premier temps, c'était prévisible. Moi, j'avais parié que ce ne serait pas la semaine prochaine, mais l'autre. Bon, ben, c'est comme ça. On fait des poules maintenant dans certaines écoles pour savoir de quel côté va tomber les décisions, vous savez. Mais on n'est pas surpris.
Vous n'êtes pas surpris. Est-ce que selon vous, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose, ou il n'y avait pas le choix, ou il y avait le choix? Qu'est-ce que vous en pensez?
On n'a pas le choix parce que c'est pas nous qui décidons. Mais vous savez, au départ, là, pourquoi on ferme les écoles? C'est parce que c'est une mesure sanitaire. C'est celle-là qu'on a décidé de privilégier avec le port du masque. Puis le port du masque, vous savez que ça a pris du temps avant que ça arrive. Mais
oui,
il y aurait d'autres mesures sanitaires qu'on aurait pu mettre de l'avant. On parle de ventilation, on parle de purificateur d'air, de sonde de CO2, de distanciation, donc des demi-groupes. Mais tout ça, le gouvernement l'a pas retenu. Lui, il va avec la mesure de une journée sur deux, en 3, 4, 5.
Ce que vous dites, finalement, c'est on devrait utiliser ça en dernier recours. Et la question que vous posez, c'est ce qu'on a fait, tout ce qu'on pouvait faire pour éviter d'en arriver là?
Non. On se compte pas de peur. Non. Puis vous savez, les demi-groupes, c'est ce que préconisait, on l'a su plus tard. Les demi-groupes, c'est ce que préconisait la santé publique pour permettre justement la distanciation. Nos élèves sont pas à 2 mètres l'un de l'autre là, dans nos classes. Ils sont collés, là.
Disons
qu'on n'a pas tous les moyens d'assurer une rentrée complète sécuritaire. Fait que ce qu'on fait, c'est l'équivalent de délestage. C'est-à-dire qu'on va délester une journée sur deux. C'est aussi bête que ça. Il y aurait d'autres possibilités, mais on les prend pas. Donc, nous, on n'a pas le choix. Et si on retient les 3, 4, 5, si c'est eux qu'on déleste, entre guillemets, c'est parce qu'ils sont capables de se garder tout seuls. Moi, j'enseigne en 2 et en 3, vous savez. Fait qu'en 2, je suis présent tous les jours à l'école. Puis en 3, j'ai 2 clientèles différentes. Donc, il y en a une qui est là une journée, il y en a une qui n'est pas là la même journée. Moi, je suis toujours à l'école de toute façon. Mais si on choisit 3, 4, 5, c'est parce qu'on estime qu'ils peuvent se garder, ils peuvent, eux, se garder tout seuls. La secondaire 1, 2, on veut pas les laisser à la maison parce qu'on veut que les parents aient travaillé. Il y a une raison d'économie là-dedans. Là.
Tout à fait. À cet âge-là, on peut les laisser tout seuls à la maison pour aller travailler. Reste que l'enseignement à distance, moi, mon fils, il ne pas vraiment là-dessus. Il est en secondaire 2 et il était très angoissé en disant « J'espère qu'on me renverra pas à l'enseignement à distance à la maison. » Donc, quand j'y ai dit « Non, non, c'est à partir de secondaire 3 », il a poussé un soupir de soulagement. Est-ce que l'enseignement à distance, est-ce que c'est... Bon, c'est un panacée, mais c'est pas une solution miracle.
Là. Non, c'est pas une solution miracle pour plusieurs raisons. C'est moins pire maintenant, OK? Il faut être honnête, là, quand on était l'année dernière en mars, et on parle d'année dernière, croyez-vous. Mais lorsqu'on était l'année dernière en mars, les élèves, bon, il n'y avait pas toujours d'équipement pour tout le monde. Ça, c'était la première lacune. Là, tout le monde a un équipement. Les élèves n'étaient pas très habiles. Hein, c'est une génération techno, là, mais ils n'étaient pas très habiles à envoyer, mettons, des devoirs, etc., etc. Donc, on a pu, avec le temps, offrir un soutien pour permettre aux élèves d'être habiles avec la machine. Mais au niveau de la pédagogie, c'est très difficile pour un enseignant d'assurer un encadrement puis un soutien efficace. En même temps, si tu as des élèves qui ont des TDA, des difficultés, qui ont besoin d'un spécialiste, le spécialiste n'est pas là, là. Donc, ah ouais. Les élèves sont, je veux pas dire laissés seuls à eux-mêmes, c'est pas vrai. L'enseignant est là, il peut répondre aux questions, il va donner son cours, il va faire des liens vers des capsules que le jeune peut aller consulter. À cet égard-là, Alloprof est une très belle ressource, mais c'est pas la même chose qu'en classe. Donc, pour des élèves qui sont pas autonomes, qui ont des difficultés, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Comme je vous disais, j'enseigne à plusieurs clientèles. J'ai une clientèle de sport-études. C'est des élèves habituellement autonomes, engagés, motivés. Ça va très bien. J'enseigne à des élèves réguliers. Et là, c'est variable selon le degré d'engagement du jeune, mais aussi de ses difficultés. C'est sûr qu'un jeune qui a des difficultés en classe, qui doit être encadré,
C'est ça, je parlais à Camille Bouchard hier, le psychologue, le psychiatre et celui qui avait écrit le fameux rapport « Le Québec fout de ses enfants ». Et il disait, écoutez, pour ceux qui s'en sortent bien, là, pour les étudiants qui s'en sortent bien, il n'y a pas de problème, ça va être correct. Là. Mais il dit, ceux qui sont près de l'échec, là, qui sont en difficulté, il dit, eux autres, là, leur niveau de difficulté va augmenter. Là, et le recul qu'ils ont par rapport aux autres élèves qui s'en tirent bien va s'élargir.
Ben, en fait, un élève peut être en difficulté, puis ça va être son niveau d'engagement aussi qui peut jouer. Mais ça, c'est vrai en présence comme à distance. Le niveau d'engagement de l'élève, le niveau d'encadrement, le niveau de soutien. Disons simplement que ça fait ressortir des inégalités. Il y a aussi des élèves pour qui c'est un chouette prétexte. Faut dire les choses comme elles sont, là. Pour eux, ben là, on est à distance, ça m'intéresse moins. Mais ils étaient déjà comme ça. Mais ça vient renforcer, mettons, ce que j'appellerais les inégalités, ça c'est sûr. Mais en même temps, je vais être honnête avec vous, ni vous ni moi souhaiterions être dans une classe une journée sur deux. C'est pas facile. Mes élèves sont pas conscients. Moi, ça fait 27 ans que j'enseigne. Là. Mes élèves sont pas conscients de ce qu'on leur demande non plus. Des fois, je leur dis à la blague, vous êtes un peu des héros, vous devriez faire des photos. Dans 10 ans, 15 ans, vous allez raconter ça à vos jeunes,
oui.
À vos enfants, puis ils vont vous regarder en disant, « Ah, quoi, t'as fait ça? » Fait que c'est complexe. On va le dire comme ça, c'est complexe. Puis l'enseignement à distance, c'est une panacée. C'est la moins mauvaise solution.
Et là, bon, on a décidé au Québec de vacciner par tranche d'âge parce qu'on s'est dit, bon, il faut protéger les gens qui sont plus vulnérables. Je comprends la logique derrière ça. Cela dit, on peut se poser une question. Qui est plus à risque? Un retraité de 70 ans qui reste chez eux ou alors un professeur de 40 ans qui est en contact avec 30 élèves tous les jours? On peut se poser la question, là.
Votre professeur de 40 ans qui a seulement 30 élèves tous les jours, il est chanceux. J'ai des collègues qui ont, dans la même semaine, ils voient 12 groupes différents. Donc, ils voient 360 élèves. Eux, ils reviennent le soir à la maison et ils font leur bulle avec leur enfant qui, eux, ont été toute la journée dans un autre groupe. S'ils ont 4 enfants, ils ont 4 bulles. La notion de bulle, là, pour un prof, là, ça n'existe pas. Moi, les profs que je connais, on est excessivement prudents parce qu'on est déjà dans dans un métier à risque, si on veut. C'est très clair. Puis si vous me permettez une anecdote,
oui.
Au primaire, puis un peu au secondaire dans certaines classes, il y avait l'activité de raconte-moi ta fin de semaine, raconte-moi ta journée. Il y a bien des profs qui font plus ça, ça fait monter leur niveau d'anxiété. Les enfants racontent que la fin de semaine, ils ont reçu leur cousin, ils sont allés chez le voisin, Je veux dire, c'est hallucinant, là. J'ai des collègues qui disent, je veux pas entendre savoir ce que vous allez faire en fin de semaine.
Il a mieux pas le savoir.
Non, parce que nous, à l'école, on maintient des règles sanitaires très sévères. On n'a pas le choix. On est un organisme public, on doit respecter les règles, puis montrer l'exemple. Mais c'est clair que pour un enseignant, actuellement, il y a de la nervosité. Puis c'est pas la question d'être des j'aime pas le terme, là, mais des princesses, là, tu sais, des primadonnas, de se plaindre, puis patata, là. On est en contact direct. Pas 2 mètres, là. Des fois, moi, j'ai des élèves, là. J'ai pas le choix. Je vais regarder leur texte, là. On est en contact direct, là, constant avec des jeunes. Je veux dire, il y a des métiers où c'est considéré à risque. Et t'as même pas cette proximité-là.
Ben oui, non, il était temps, là. Comme vous dites, là, on a eu des retards beaucoup sur le masque, ça niaisait. Sur les ventilateurs, ça niaise encore. Quand on sait que Jasmin Roy a une fondation, puis il est prêt à en acheter, lui, puis aller les installer, puis on a dit non, on n'en veut pas. Et là, ça niaisait sur la vaccination.
Mais encore, si vous me permettez, c'est à Montréal. Traverser la rivière, traverser le fleuve. Le virus, lui, il traverse. Hein. Vous savez, le virus, il n'y a pas de problème à traverser. Mais j'ai des collègues à Montréal qui seront vaccinés. Moi, je suis dans une classe dans la région de la Naudière, mais écoutez, c'est 5 minutes en voiture. Je serai rendu à Montréal. Et la vaccination ne se rend pas là. Et on ne sait pas quand on va se rendre. Mmh. J'ai plus de chances d'être vacciné en fonction de mon âge que de mon métier actuellement.
Ça ne tient pas debout, là. Ça, c'est assez, comme vous dites, là, effectivement, il y a des régions. Mon ami du Trisac, co-animateur ici, il est en Montérégie, c'est mon Dieu, il est à 10 minutes de la station. Moi, je me suis fait vacciner il y a 2-3 semaines, et lui, bon, il va se faire vacciner cette semaine, parce qu'on dit en Montérégie, ça prend plus de temps. Mais il travaille à Montréal. S'il était prof,
Mais là, il pourrait, avec certaines preuves, le faire. Mais comme je vous dis, moi, c'est pas un secret. Ce matin, j'étais en classe, là, mes élèves ont joué à deviner mon âge, puis je comprenais pourquoi. Ils voulaient savoir quand j'allais me faire vacciner, j'imagine. Et j'ai 57 ans. J'ai 3 facteurs de comorbidité. Mais c'est sous contrôle, fait que c'est quand même bien. Mais il demeure que je suis pas une jeunesse, là.
Non, ça niaise.
Est-ce que ça m'empêche de dormir la nuit? Non. Est-ce que je suis conscient que je dois poser les bons gestes barrières? Oui. Est-ce que le virus peut frapper à tout âge? Oui. Mais c'est sûr qu'actuellement, à part l'île de Montréal, et dans la conférence de presse hier du ministre Dubé, là, il précisait l'île de Montréal là, pour que les gens ne s'enflamment pas. À part l'île de Montréal, qui actuellement se contrôle, il n'y a aucun enseignant qui est vacciné. Et on est dans des milieux. Et l'école est le deuxième lieu d'éclosion.
Ben oui.
Au Québec. Et ça a été nié et c'est encore nié. L'école est un lieu d'éclosion au même titre qu'une entreprise. Il n'y a pas de différence. C'est des gens dans des milieux clos avec des interactions. Au début, on nous disait, les jeunes transmettent pas. Après, les jeunes transmettent plus. À l'usage, on a compris que les jeunes transmettent. Puis, avec les variants qui s'en viennent, parce qu'ils sont pas vraiment arrivés, on a la crainte que ce soit plus. Et vous savez, même si on est vacciné, rien n'empêche que je pourrais l'avoir. Et si je l'ai, ma classe ferme. Actuellement, le plus grand danger, ça va être les fermetures de services. Parce que même si on est vacciné, je peux contaminer, je peux avoir des séquelles. Ce que le réseau va affronter au cours des prochaines semaines, c'est les fermetures de services, comme on a vu au Bas-Saint-Laurent dans plusieurs régions.
Donc, si je vous demandais comme prof de donner une note à notre ministre de l'Éducation, j'imagine que ça serait pas une très bonne note, hein?
Honnêtement, il y a un sondage, c'est sûr que c'est fait par un syndicat, là, mais je pense que 80% des profs de la FAE disaient que le ministre n'était pas à la hauteur de la crise. C'est la première fois que je vois quelque chose d'aussi fort de toute ma carrière.
Mais écoutez, si jamais il y a des menaces de grève et tout ça, si jamais il y a une grève, on se reparlera de ça.
C'est un autre débat, je vais vous dire.
Oui.
Les profs sont très ambivalents sur ça, mais en même temps, il y a tellement une grande écœurantite de tout ce qui se passe, que je pense que c'est à la fois une grève, mais une soupape de colère de tout ce qu'on vit. En même temps, on est chanceux, on est payé, on a un travail, bon, on est conscient de ça, là. Mais il y a une soupape de colère qui est très grande actuellement aussi, là.
Ben, tout à fait. Puis c'est une façon de dire, écoutez-nous, là, regardez-nous, là. C'est vrai que ça niaise trop pour la vaccination, là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, M. Luc Papineau. Puis j'invite les gens, tiens, à aller sur votre page Facebook. De temps en temps, vous publiez des textes très intéressants sur l'éducation. Merci.
Ben, merci. Bonne fin de journée.
Merci. Bonne journée.